8h32, la revue de presse internationale d'Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Julie.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve à la une de la presse étrangère ce matin?
Alors, aux États-Unis, ce matin, c'est à nouveau un tweet de Donald Trump qui met le feu aux poudres. Voici le tweet en question, traduit en français. Ainsi, le président Obama savait à propos de la Russie avant l'élection. Pourquoi n'a-t-il alors rien fait? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Parce que tout ceci est une vaste intox. Fin de citation. Quel est l'intox en question? Est-ce l'ingérence russe en elle-même ou est-ce le fait que Barack Obama était au courant? Bon, ce n'est pas très clair, mais pour de nombreux médias américains, comme par exemple le Washington Post ou le Daily Mail, le président retourne tout simplement à nouveau sa veste. De nouveau, il nie l'ingérence russe en elle-même. Pour Brian Stelter, sur le site de CNN, quand les historiens regarderont en arrière la présidence de Trump, ils diront que la semaine écoulée a constitué un véritable point de bascule. À tous les niveaux, il est incroyable, dit-il, de voir un président en exercice contredire ainsi sa propre administration. De son côté, le Wall Street Journal s'intéresse aux nouvelles relations entre les États-Unis et le Mexique. Peuvent-elles changer en bien depuis l'élection, le 1er juillet, d'un nouveau chef de l'État mexicain? Eh bien, en tout cas, le nouveau président López Obrador veut repartir sur des bases plus saines avec son homologue américain. López Obrador a donc envoyé un courrier à Donald Trump pour essayer de rétablir une relation. Bon, la lettre n'est pas tout à fait nouvelle, elle date d'il y a quelques jours, mais aujourd'hui, le Wall Street Journal nous en dévoile le contenu précis. Le président mexicain affirme qu'il vaut la peine de faire un effort pour conclure la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et cet article signé Juan Montes cite ce passage savoureux du courrier. Face à un Donald Trump qui a souvent usé de piques très agressives contre le Mexique, López Obrador essaye de jouer finement, en insistant sur ses points communs, par exemple, avec le président américain. « Je suis encouragé, écrit-il, par le fait que tous les deux, nous faisons ce que nous disons. Tous les deux, nous avons fait face à l'adversité et nous avons gagné. Tous les deux, nous avons réussi à mettre nos électeurs et nos citoyens au centre et à déplacer l'establishment politique. » Obrador sait que son homologue américain peut être sensible à la flatterie et il n'hésite donc pas à en user.
Autre actualité du jour évoquée tout à l'heure dans le journal de 8 heures, quelques 400 Syriens, membres des casques blancs accompagnés par leur famille, ont été évacués dans le plus grand secret par l'armée israélienne.
Et c'est le quotidien israélien Haaretz qui nous raconte en détail comment s'est passée l'opération dans un article signé Yaniv Kubovitch. Alors il y a quelques semaines, États-Unis, Canada, France et Grande-Bretagne lancent un appel aux responsables politiques israéliens pour qu'ils essayent donc d'aider à l'évacuation de ces casques blancs de Syrie qui sont menacés par la progression de l'armée de Bachar al-Assad. Les forces de sécurité israéliennes reçoivent alors toute une liste de noms. Samedi, elles ferment des routes sur le plateau du Golan avant l'opération d'évacuation. Tout se fait dans le plus grand secret. Les casques blancs rassemblent leurs militants. Ils leur disent de se rendre à deux points différents le long de la clôture. L'un au nord du plateau du Golan, près de Kouneitra, et l'autre à la frontière israélo-jordanienne. Samedi soir à 23h, l'armée israélienne commence à ouvrir les points de passage de la frontière, surveillant de près les évacués de peur qu'ils ne soient attaqués en entrant en Israël. C'était un risque. Les militants syriens et les civils sont installés dans des bus qui démarrent et qui roulent sans arrêt jusqu'à la Jordanie. Les casques blancs doivent maintenant être accueillis par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Canada.
Et puis nous ouvrons les journaux italiens avec vous, Ilan Malka.
Oui, les journaux italiens évoquent tous avec émotion Sergio Marchionne, qui a dirigé Fiat pendant 14 ans. Alors il a dû quitter sa fonction de PDG pour des raisons de santé. Il est actuellement dans un coma profond. L'hommage est unanime, même s'il ne s'exprime pas toujours dans les mêmes termes. Il y a l'hommage passionné, exalté. C'est celui, par exemple, de Bianca Maretto dans le quotidien Corriere della Sera. Nous ne pourrons jamais parler de lui au passé, écrit-elle. Cet homme public est entré dans la maison de tout le monde avec son pull noir, ses chemises à carreaux. Il a conquis les gens ordinaires. Elle évoque une vague d'affection dans le pays pour l'un des managers les plus populaires au monde, écrit-elle, qui savait être drôle, affectueux et tendre. Alors, il y a aussi dans la presse des hommages plus mesurés, plus en retenue. On peut citer par exemple celui du syndicaliste italien Giorgio Airodo dans Il Fatto Quotidiano. Alors, lui distingue deux Marchionne. Il y a, dit-il, Marchionne l'italien, chef d'entreprise qui recrée un esprit national, qui fait marcher les usines et qui mange dans la cantine avec les employés. Et puis, il y a le Marchionne post-2008, post-crise. Et là, les choses changent. La dégradation du contexte mondial le surprend. Il emprunte de l'argent du gouvernement américain pour acheter Chrysler. Et la dimension nationale italienne de l'homme disparaît. Apparaît alors Marchionne l'américain et sa priorité devient alors internationale. mais le syndicaliste reconnaît que ce sont les politiciens du pays qui sont responsables de l'affaiblissement de l'industrie automobile italienne. C'est donc une interview à lire dans Il Fatto Quotidiano.
Merci beaucoup Ilan Malka. Je retiens Marc Yonnet, première période qui mangeait à la cantine avec ses employés. Toujours très important de manger à la cantine, il paraît, avec les employés. Merci beaucoup Ilan Malka. Bonne journée.